RMC, 9h midi.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules.
1, 2, 3, 4.
Bonjour à vous tous, bonjour, bienvenue, 9h midi, vous connaissez le rendez-vous, 3h de débat, de liberté d'expression sur RMC, RMC Story. On commence la semaine avec une équipe choc, composée de Flora Gebali. Bonjour Flora.
Salut tout le monde.
Entrepreneur dans la transition écologique. Zora Bitan est avec nous, fonctionnaire cadre dans la fonction publique. Bonjour.
Oui, bonjour à tous et bonjour à la tribu de Zora. 10 000, on a dépassé les 10 000 hier.
Quel succès.
Toujours, non mais...
Et puis la tribu de Charles.
Bonjour à tous.
Ils sont trois et demi.
On est 67 millions de Français.
Oui, voilà. C'est ça.
Tu as la France avec toi, bien sûr. Charles Consigny, l'avocat, est avec nous.
Je rassemble.
De quoi va-t-on parler? Tiens, tout à l'heure, notez ce rendez-vous. Le général Vincent Desportes sera face au GG. Je ne sais pas si vous avez suivi les dernières informations concernant le détroit d'Ormuz. Ça ne s'arrange pas. Désormais, on tire sur des cargos. Un cargo français a été visé par les autorités iraniennes. Un cargo iranien a été visé par l'armée américaine. Du coup, la guerre est toujours là. Une guerre sans fin. Le général Desportes viendra nous raconter ce qu'il pense de ce conflit avec ce livre Stratégie des essentiels chez Odile Jacob. Général Desportes face au GG tout à l'heure à 11h. Mais avant cela, beaucoup de choses dans l'actualité. Tiens, à commencer par cette proposition de la CGT. La France a-t-elle besoin d'un nouveau jour férié ? Sophie Binet veut faire du 8 mars un jour férié. La secrétaire générale de la CGT veut faire de cette journée qui célèbre la lutte pour les droits des femmes une nouvelle journée chômée et rémunérée comme celle du 1er mai. Voilà son argument, l'un de ses arguments. On a 11 jours fériés en moyenne en France contre 12 en Union européenne, donc on peut en avoir un de plus. Est-ce que c'est une bonne idée? Pour l'instant, une idée qui a été écartée par le gouvernement. Faire donc du 8 mars journée de la femme, une journée qui serait chômée, rémunérée comme celle du 1er mai. Le 32-16 pour intervenir, Zora Bitan, je m'adresse tout d'abord aux femmes, même si cette journée serait fériée pour tout le monde.
En fait, c'est pas la journée de la femme. Vous pouvez changer le bandeau en régie parce que c'est la journée internationale des droits des femmes. Et alors, c'est la journée de la femme, vous allez nous offrir des aspirateurs, c'est insupportable. Et c'est la journée internationale des droits des femmes, commencez par le dire.
C'est ce que j'ai dit.
Par dire, non, là, il y a écrit la journée de la femme et je suis pas contente.
D'accord. Mais sur le jour férié, est-ce que tu es contente ou pas?
Non, mais je laisse la parole à Zora, je voulais pas la couper. Il est 9h02, je vais pas commencer.
C'est trop tard, tu as commencé.
Non, mais bon, voilà, on a affaire aux appauvrisseurs de la société, aux appauvrisseurs de la France. Rajouter une journée fériée pour une cause qui devrait être 365 jours de l'année. Les droits des femmes, c'est pas un jour, c'est pas à la carte, c'est pas quand on y pense, c'est tout le temps. Et je vois que la CGT, voilà, elle est toujours aux avant-postes de appauvrir le pays, faire en sorte que les gens travaillent le moins possible et créent le moins de richesses pour demander à côté le plus de solidarité, le plus d'aide sociale, le plus de protection des gens les plus faibles et à côté de ça, le moins de gens qui produisent de la richesse. Donc c'est vraiment du grand n'importe quoi, ça apportera rien du tout, ça produira rien du tout pour le droit des femmes. Donc pour moi c'est nec.
On n'a pas besoin de cette journée.
Mais c'est du cégétisme, mais vraiment pourri comme on en a marre. Voilà, c'est exactement ça.
Flora.
À part que c'est la journée internationale des droits des femmes et qu'elle est fondamentale en France et partout dans le monde pour remettre à l'agenda, au cœur de l'agenda, les sujets droits des femmes, sachant que les femmes sont toujours moins payées que les hommes, on n'est pas du tout arrivé à l'égalité et que c'est pas demain la veille qu'on sera à l'égalité, je suis pas sûre qu'une journée chômée, ça aide. La preuve, quand les jours sont fériés, là, au mois de mai, on sait pas très bien. Par exemple, est-ce que vous êtes capable de me dire c'est quoi la symbolique de tous les jours fériés? Bon, ok, le 1er mai, c'est la fête du travail. Bon, ok.
Si, quand même.
Je suis pas sûre.
Le 8 mai, c'est la capitulation allemande.
L'ascension, c'est le 14 mai, preuve.
Alors, le 15 août.
Oui. Alors, c'est l'ascension.
15 août, c'est quoi?
C'est l'ascension. C'est bien, c'est ça.
Le 25
oui, non, mais
décembre.
Le 14 août.
C'est Pâques.
Le 15
décembre. Le 14 juillet.
Voilà,
c'est Noël.
Donc.
C'est Noël.
Déjà, si on était capable de connaître
la
symbolique.
C'est Pâques.
Je pense que si on demande aux Français dans la rue, micro-trottoir, c'est quoi 8 mai pour vous, je pense qu'il y a 75%.
Est-ce qu'on pourrait pas supprimer le 8 mai et le remplacer par le 8 mars?
Bah. Ce serait encore ouvrir un autre débat, pourquoi pas.
Non mais ouais. Si on veut pas de jours supplémentaires,
mais c'est même pas la question du droit des femmes, c'est de férier un jour. C'est une grosse hypocrisie, c'est une carotte monumentale. Le droit des femmes, c'est toute l'année dans l'agenda transversal de tous les ministères.
La journée de la femme, c'est toute l'année.
Mais des droits des femmes.
Tu fais exprès, c'est pas possible. Et je vais vous dire, politiquement, la CGT fait un cadeau à LFI, parce qu'il y a LFI qui a proposé d'ajouter des jours fériés au calendrier. Et donc la CGT les aide à amplifier leurs propositions. Encore une fois, LFI est hégémonique à gauche parce que c'est les seuls qu'on entend proposer des choses. Et ça, c'est un gros problème. Et ça, c'est un gros problème pour le reste de la gauche. Bah, il n'empêche que c'est une proposition. Qu'on soit d'accord ou pas.
Ils la font pas, c'est pareil.
Qu'on soit d'accord ou pas, LFI propose des choses. VS, le reste de la gauche qu'on n'entend pas.
Alors, c'est vrai que les jours fériés, c'est toujours un sujet tabou en France. Par exemple, François Bayrou, souvenez-vous, lorsqu'il était Premier ministre, avait proposé la suppression de 2 jours fériés et ça avait été une bronca générale. Alors, il n'est pas tombé à cause de ça, mais enfin, ça n'avait pas aidé à son maintien à Matignon. On voit que c'est un sujet sensible, les jours fériés. Alors, en rajouter, c'est peut-être plus simple qu'en supprimer, Charles Consigny.
Écoutez, sans vous surprendre, hélas, je ne m'exprimerai pas en soutien de ce jour férié pour la journée de la femme. Je fais exprès pour agacer Flora.
Je sais pas pourquoi ça l'agace.
Pour les droits des femmes.
Pourquoi ça m'agace? Parce que désolé, je vais te couper à ton tour.
Je t'en prie.
Parce que ça voudrait dire que donc 364 jours par an, c'est la journée de l'homme et un jour par an, c'est la journée de la femme.
Ça s'appelait comme
déjà,
ça
n'aurait aucun sens. Ensuite, l'enjeu, c'est pas de célébrer les femmes du tout. Personne n'a demandé à ce qu'on nous célèbre. L'enjeu, c'est de mettre à l'agenda les intérêts politiques à l'égalité femmes-hommes. Et malheureusement, si on n'a pas une journée pour sacraliser le sujet,
les
sujets passent vite à la trappe.
Parce que c'est pas.
Non.
Voilà, donc honnêtement, là, c'est la CGT qui propose ça.
Oui, tout à fait, c'est Madame Binet.
Oui, mais Madame Binet.
Pour l'instant, le gouvernement a dit non.
Madame Binet a
ça,
pas. Enfin bon, je. À part se prendre pour Mitterrand avec ses chapeaux et ses écharpes.
Non, mais elle dit par exemple qu'il y a 11 jours fériés en moyenne en France. C'est vrai, il y a 11 jours fériés en France. Contre 12, si on prend la moyenne en Union européenne. Enfin, 12, ça veut dire qu'il y en a qui ont plus, d'autres moins. Donc elle dit, on pourrait en avoir un de plus, on serait dans la moyenne européenne.
Voyons on peut mettre le 24 décembre aussi, histoire de préparer Noël. Et
on pourrait faire des jours sans la CGT.
Le problème, c'est que dans le même argumentaire, elle dit qu'on a un problème de salaire en France, qu'il faudrait augmenter les salaires. Alors, c'est vrai que c'est bizarre de demander moins de travailler.
Si tu bosses pas, je vois pas comment tu vas produire de la richesse. C'est ça qui est excellent avec la CGT.
Mais est-ce qu'on pourrait pas remettre
avec
à plat
la gauche en général d'ailleurs.
Oui, mais est-ce qu'on pourrait pas remettre à plat tous les jours fériés parce qu'on sait plus trop, comme le dit Flora, à quoi ça correspond.
Mais non, on a une histoire dans ce pays.
Il y a beaucoup de jours fériés qui sont liés à des fêtes catholiques, chrétiennes.
Il
y a certains jours fériés qui sont liés à des fins de conflits, le 11 novembre, le 8 mai. Est-ce qu'on pourrait pas tout mettre sur la table? Est-ce qu'il y en a trop, pas trop? Est-ce qu'on pourrait avoir un vrai débat sans
Ligue,
que
Charles
tout le monde s'énerve?
On a autre chose à foutre pour
déjà,
dire les choses
déjà.
Comme elles sont. Je pense qu'on a vraiment des priorités autres en France et que par ailleurs, effectivement, que les jours fériés soient liés à l'histoire catholique et l'histoire tout court de notre pays me paraît pas extravagant et on va pas là parce que la population a changé, parce qu'il y a moins de cathos, parce que sais-je, se mettre à créer des nouveaux jours fériés ou à les changer.
Mais
ce
qui est dingue, c'est que tout un pan.
Il y a d'autres religions.
Non, mais tout un pan de notre société, l'école, le niveau en maths, le pouvoir d'achat, il y a des sujets énormissimes. Et en plus, il y a une espèce de fâcheuse habitude de vouloir effacer ce que l'on est et effacer notre histoire. Et ça, c'est absolument insupportable. C'est-à-dire qu'on serait le seul pays au monde où on veut prendre voilà, on efface, terminé. D'où vous venez, on sait pas. Non, c'est pas une évolution. L'histoire, c'est pas une évolution. L'histoire, c'est la mémoire. L'histoire, c'est ce qui est fait, c'est ce qui nous enracine et c'est ce qui fait que nous sommes un peuple et un pays. Vouloir l'effacer et vouloir la garder, ce n'est pas ne pas avancer, ce n'est pas ne pas évoluer, ce n'est pas progresser, ce n'est pas ne pas être moderne. L'histoire, c'est quelque chose que l'on transmet de génération en génération. Il y a énormément d'enfants qui participent au 11 novembre, il y a énormément de gens au 14 juillet, etc., etc. À Noël, toutes les familles sont en fête, qu'elles soient croyantes ou pas. Qu'est-ce qui nous lie ? Alors, vous vous rendez compte de ce qu'on est en train de faire ? C'est-à-dire que tout ce qui fait peuple, tout ce qui fait commun, tout ce qui fait qu'on vit ensemble, eh ben, il y a des gens qui, par haine ou par rejet ou je sais pas pourquoi, voudraient effacer. Bientôt, on va nous dire peut-on continuer à s'appeler France ? Peut-on envisager de changer la couleur du drapeau ? Peut-on envisager de supprimer la commémoration de la libération ? Non, mais faut arrêter, quoi.
Moi, ce qui me chagrine, alors, c'est
Florent
que...
Florent Gabali, toi, tu serais assez d'accord pour qu'on redéfinisse un peu les jours fériés ?
Alors, non.
Ceux qui sont utiles, ceux qu'on non. pourrait supprimer, en rajouter d'autres ?
Non, moi, je crois pas qu'il faille rajouter... Alors, il y a deux sujets. Le premier sujet, c'est les jours fériés. Moi, j'ai toujours pensé qu'il fallait un jour... pour un jour férié sur le calendrier musulman, un jour férié sur le calendrier juif, et un jour férié sur le calendrier catholique, parce que je suis pas suffisamment experte en religion pour décider lequel. En revanche, demander à des gens de choisir un jour férié sur les trois religions. Donc Noël,
chaque religion aurait son jour férié.
Et ça, je pense que ce serait une marque de respect envers les différents cultes et aussi d'intégration, parce qu'on parle toute la journée d'intégration. Comment on intègre les différents cultes ? Effectivement, le pays a changé. Évidemment, je respecte les jours fériés chrétiens, mais je trouve que
mais
ce serait bien.
Rajouter un jour férié
ça
pour
aiderait,
les musulmans.
Ça, surtout,
tu veux que je te réponde ?
Attends,
tu vas répondre.
Ça aiderait surtout le pays à culturellement découvrir les fêtes des autres. Par exemple, l'Aïd, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas ce que c'est. Kippour, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas ce que c'est. Or, toutes les fêtes religieuses sont une richesse culturelle. Évidemment, on n'impose à personne.
Sans avoir un jour férié.
Le fait est qu'on en parle assez peu, alors que Noël, on en parle davantage, peut-être, parce que c'est plus, y a plus d'ampleur. Bref, ceci dit, sur la question du travail.
Noël, c'est même
la CGT,
tellement religieux.
C'est un syndicat. Vous savez à quoi ça sert un syndicat? Ça sert à défendre les droits des travailleurs. Aujourd'hui, les droits des travailleurs, ils sont menacés par un nombre infini de facteurs. L'intelligence artificielle, la délocalisation, les GAFAM qui pillent nos données, qui pillent notre façon de travailler, qui pillent notre façon d'être. Et moi, je ne comprends pas que Sophie Binet, la CGT, nous parle de jours fériés, alors même que face à elle, elle n'a jamais eu autant de défis et d'enjeux. Je trouve ça terrible.
Alors, moi, je reste sur sa proposition, Zora. Est-ce qu'il faut rajouter un jour férié pour chaque religion, alors, les musulmans, les juifs, alors, peut-être pourquoi pas les bouddhistes
Non. Alors, d'abord, moi, je sais d'où je parle. Je suis née dans une famille musulmane et le fait qu'il n'y ait pas l'Aïd dans les jours fériés n'a empêché ni mon intégration ni mon assimilation. Ça ne change absolument.
L'argument d'autorité de base.
Ça change rien. Factuellement, ça change. Je vais te dire pourquoi. Parce que dans une société comme la nôtre, si tu fais que chacun à la carte prend sa fête, qu'est-ce que tu fais le 25 décembre pour les entreprises quand celles qui ouvrent qui ferment
ça.
Peu importe.
J'ai
peu
pas
importe.
Dit ça.
L'assimilation et l'intégration, c'est quoi ?
Pas de communautarisme dans les jours fériés, c'est ce que tu dis.
Déjà,
ça
ne produit rien.
Au contraire.
Regardez en efficacité. C'est-à-dire que moi, demain, si d'abord l'Aïd, tu peux. Les enfants vont pas à l'école quand c'est l'Aïd. Il y a des circulaires et des règlements qui font que tu ne peux ne pas aller à l'école. Ça existe déjà, mais ça fait pas de loi et ça fait pas de jour férié. Et pourtant, c'est possible. Il y a des entreprises qui accordent des aménagements de travail quand il y a le ramadan. La société est déjà organisée pour cette diversité. La vraie question, c'est pas celle-là. Elle est beaucoup plus profonde et beaucoup plus importante que celle-là. Parce que l'intégration, c'est quoi? C'est la formation, c'est le travail, c'est plus de discrimination, c'est l'ascenseur social, c'est tout ça. Donc, si tu fais pas tout ça et que tu fous un jour férié, ça changera absolument rien à ta vie.
Sur la question des discriminations, je pense que si on intègre, je pense que si on se met tous à respecter les fêtes des autres, il y aura plus de respect et moins
juste
de discrimination.
Ça, c'est une spécialité de la gauche, le pansement. Tu sais, le patch, ça fait 40 ans qu'elle fait ça. Depuis SOS Racisme à aujourd'hui, sa grande grande spécialité, c'est je vous fous un jour férié et j'ai participé à l'intégration.
Et bah il n'empêche que SOS Racisme fait plus pour l'intégration des minorités que toi.
Bah que moi. Oui. Ah bah je vais te dire. Ah bah j'en suis. Alors je vais te dire non que alors, moi. Alors tu connais absolument pas mon
alors,
parcours.
Attendez, attendez, Christelle,
toi tu n'es pas. Moi j'y suis encore. Christelle, moi j'y suis encore avec les gosses dans les quartiers et dans la ruralité.
Christelle est
depuis l'âge de 16 ans, je ne l'ai pas quitté ce quartier. Ces quartiers. Donc je fais pas moins. Surtout qu'eux, ils ont fait beaucoup. Ils ont fait un carnage sur l'intégration et l'incrimination en fabriquant des nouveaux racistes.
Christelle est avec nous au 32-16. Bonjour Christelle.
Oui, bonjour à tous. Vous allez bien ?
Bien et vous,
oui,
en pleine forme ?
Bien. Oui, 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 très bien. Alors un gros bisou à Zora de la tribu.
Oui, merci.
Ah, vous êtes dans la tribu de Zora ?
Oui, oui, oui.
Vous voulez en sortir ?
Les 2000 premières. Non, jamais.
Dites-le nous, profitez-en.
Non, commence pas.
Et un gros bisou à Charles, lui aussi.
Et ben voilà. Bon, tu vas pas tarder à rejoindre la tribu de Zora.
Mais moi, j'ai pas de bisous, moi.
Et faites un bisou à Flora aussi. Et à moi aussi, je suis un peu jaloux. Hein.
Je viens de dire un bisou à Flora, même si je suis pas toujours d'accord avec.
Et moi, pas de bisous, super.
Mais le plus important, c'est de s'embrasser.
Bon, Christelle, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on a besoin d'un nouveau jour férié le 8 mars ?
Mais non, pas du tout, pas du tout. Il faut arrêter. Moi, j'aimerais que des pseudo-féministes comme Madame Binet s'occupent plus de combattre pour les femmes afghanes qui ne veulent plus porter le voile. Pour nous, au niveau travail, qu'on ait salaire égal à travail égal. Voilà, pour des choses vraiment importantes. Un jour férié en plus. Mais quand est-ce que la France, elle va bosser ? Parce que alors on met un jour férié pour machin, on met un jour férié pour bidule, mais on s'en sort plus. On s'en sort plus. Moi, j'ai été licenciée. J'ai été licenciée. Je me retrouve malheureusement au RSA à devoir soigner mon cancer du sein. Je m'en sors pas. Voilà. Je suis dans un bordel pas possible. Et là, on va nous pondre un jour férié pour la journée.
Même dans votre situation, ce qui est bien, c'est que même dans votre situation, vous avez un certain sens de l'intérêt général en disant un jour férié, il faut absolument créer de la richesse. Ça sert à rien. Ben ça, c'est beau.
Merci Christelle. Pas de jour férié pour Christelle, en tout cas le 8 mars. La question a été posée également sur le compte X des GG. Petite consultation rapide pour savoir si vous voulez de ce jour férié proposé par Sophie Binet. La journée de la femme doit-elle devenir fériée ? La journée consacrée aux droits des femmes doit-elle devenir fériée ? Eh bien, vous dites non à 84%. Dans un instant, Jordan Bardella, opération séduction lancée par le jeune président du RN vis-à-vis du patronat. Il rencontre les chefs d'entreprise du MEDEF, il déjeune avec eux et il a écrit une lettre pour leur dire qu'il allait dans leur sens. Est-ce que vous y croyez ? Est-ce que Jordan Bardella est crédible face au patron ? A tout de suite.
RMC, 9h, midi. Les Grandes Gueules. RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les Grandes Gueules.
La suite des Grandes Gueules sur RMC, RMC Story, Flora Gebali, Zora Bitant et Charles Consigny.
Il vient de dire une dinguerie, Olivier, je balance.
Mais oui, mais on fait des vannes pendant la pub. On disait qu'il y avait deux femmes dans les Grandes Gueules, le niveau montait.
Oui, c'est ça.
Charles était beaucoup plus discret d'ailleurs.
Oui, parce que j'étais dépassé intellectuellement.
Il continue.
C'est toi qui as fait la vanne, Flora.
Oui, non, bien sûr.
Je ne fais que
la
reprendre.
À la pub, c'est la différence entre toi et moi. Voilà. Toi, tu n'as aucun filtre.
Vous avez bien compris que la campagne présidentielle avait commencé. Et ce midi, Jordan Bardella a un rendez-vous important. Il déjeune avec les dirigeants du MEDEF. Opération séduction du côté du président du RN, parce qu'on le sait, les chefs d'entreprise ont du mal à être convaincus par le programme économique du Rassemblement National. C'est pour ça que Jordan Bardella déjeune avec les dirigeants du MEDEF, qui est le premier syndicat des patrons. Il a écrit une lettre qui va partir ce matin, que les patrons vont recevoir. Et dans cette lettre, eh bien, il s'engage à libérer l'économie française de ses entraves coûteuses. Il veut élaborer un grand projet d'ordonnance de simplification qui serait publié dès le début de son mandat, si c'est lui qui est président de la République, afin de libérer l'économie française. Donc là, il va plutôt dans le sens des patrons. Moins de normes, plus de liberté. Jordan Bardella veut séduire. Marine Le Pen avait, elle, dîné, souvenez-vous, la semaine dernière avec des chefs d'entreprise du CAC 40, dont Bernard Arnault ou le patron de Total, monsieur Pouyanné. Donc c'est vraiment une entreprise de séduction qui se met en place au Rassemblement National. Est-ce qu'il est crédible, Jordan Bardella? Le 32-16 pour intervenir, Charles.
Alors, il faut dire le prince Jordan Bardella maintenant, parce que sinon tu ne respectes pas les usages. Et Stéphane Bern va te rappeler à l'ordre. Donc attention, on est en France, on respecte les familles royales. Donc moi je trouve que c'est toujours le même bullshit au fond. À un an de la présidentielle, vous avez toujours les hommes politiques qui vont voir les entreprises en leur disant on va mettre moins de normes, moins d'impôts, nous allons vous simplifier la vie, etc. Et très souvent, ces mêmes hommes politiques vont voir d'autres publics en leur disant « Nous allons vous offrir davantage de protection, nous allons réglementer cet aspect qui ne vous convient pas, nous allons faire plus de redistribution sur tel et tel aspect. » Et donc, les responsables politiques font des promesses contradictoires. Et ça allait d'autant plus, c'est d'autant plus le cas au RN que, pour le coup, je ne sais pas si c'est théorisé, mais ça fonctionne comme ça, le RN est une espèce de monstre à deux têtes, avec Bardella qui parle à la droite, et donc au patron notamment, et Marine Le Pen qui parle plutôt à la gauche, ou à l'inconscient gauche de la France, et plutôt aux classes populaires, et qui est sur un discours beaucoup plus à gauche.
Alors c'est une répartition de rôle, ou est-ce qu'il n'y a pas une différence entre les deux?
Ah non, moi je peut-être, mais honnêtement, si Jordan Bardella était traversé par des convictions idéologiques fortes, on s'en serait rendu compte. Je pense que Marine Le Pen a plus de convictions que lui, à vrai dire. Sauf qu'elle a des convictions à gauche. Donc voilà.
Alors pourquoi lui va séduire les patrons?
Moi, je crois que c'est bidon. Pourquoi, parce qu'il passe mieux auprès des patrons. Parce que les patrons sont leaders d'opinion. Parce qu'il a besoin de se crédibiliser.
Non, mais
maintenant qu'il est anobli, il doit gagner la bataille de la crédibilité.
C'est-à-dire que pour être un candidat crédible, il faut aussi que les chefs d'entreprise vous soutiennent.
La question, c'est même plus la crédibilité, c'est la légitimité, il l'a. Voilà, il est complètement légitime d'aller parler avec les patrons. Et d'ailleurs, l'ensemble de l'univers médiatico-politique l'a légitimé. La question, c'est pas qu'il soit crédible ou légitime.
Donc c'est l'ultime étape de la dédiabolisation. Non, c'est-à-dire qu'il déjeune avec les patrons du MEDEF, il n'y a pas de problème.
Mais ça fait longtemps qu'ils sont dédiabolisés, il faut atterrir. Ça fait longtemps, parce que lorsque le peuple vote en masse et massivement pour le RN, tant que la gauche et les autres se seront jamais posé la question de leurs propres échecs sous leurs yeux et de tout le temps courir avec un thermomètre dans les fesses pour savoir si ça monte ou pas du côté du RN, on n'aura jamais avancé. Parce que le RN, c'est devenu le miroir de leurs propres échecs. Donc la question, c'est pas est-ce que Jordan Bardella est crédible ou pas. Non seulement il l'est, mais en plus il est légitime. Oui, et troisièmement, ils ont jamais été au pouvoir. Donc eux, c'est open bar pour eux.
Oui,
ils
peuvent raconter tout. Zora, pendant longtemps, on présente le RN comme le parti de la France populaire.
Oui.
Là, il va séduire les patrons.
Et alors
les patrons, ils votent pas RN.
Mais vous croyez que la France populaire, elle a pas envie que son porte-monnaie il aille mieux? Vous croyez que la France populaire, elle a pas envie qu'il y ait plus de travail, que les gens gagnent mieux leur vie? Vous croyez que la France populaire, elle vote que pour qu'il y ait moins d'immigrés, plus d'autorité, plus de police? Elle vote aussi pour son porte-monnaie. Faut arrêter de
stigmatiser les électeurs. Donc elle est d'accord quand Jordan Bardella dit on va libérer l'économie, il y aura moins de normes, on va tout
Jordan
simplifier.
Jordan Bardella, c'est le symptôme d'une gauche qui a tout abandonné depuis des décennies. Voilà. Donc le problème, c'est pas Jordan Bardella, c'est l'échec des autres.
Alors, Flora Gebali, ce déjeuner avec le MEDEF.
Pour une fois, je vais être assez d'accord avec Zora. L'heure est plus au débat sur la diabolisation ou dédiabolisation du RN. Ça, c'était en 2002.
Donc personne ne va reprocher au MEDEF de déjeuner avec Bardella.
24 ans.
Voilà. Et donc à un moment, il est temps d'actualiser les logiciels parce qu'en fait, on est sur des débats qui ont 20 ans. Là, le sujet, il est dédiabolisé. À partir du moment où c'est la première force politique aux dernières élections, ils sont dédiabolisés.
C'est
pas le sujet. Et c'est ridicule de dire, c'est la démocratie. Et c'est ridicule de dire non, de faire des pudeurs de gazelle alors qu'il y a 12 millions de Français qui ont voté pour eux aux législatives. Maintenant, le sujet, c'est qu'est-ce qu'il va dire au MEDEF? Et passer devant le MEDEF pendant une élection, c'est aussi classique. classique. Vous savez ce que c'est l'agenda d'un candidat à toute élection? C'est de enchaîner les petits déjeuners, conférences, dîners avec des ce qu'on appelle corps intermédiaires, think tank. Alors les corps intermédiaires, c'est voilà le Rassemblement des patrons de France, le MEDEF, mais il y a aussi des think tanks moins connus, par exemple l'espace qui rassemble les experts du numérique.
La gauche avec Terranova, par exemple.
Et la gauche avec Terranova, par exemple. Et donc ça, c'est l'agenda d'un politique. Maintenant, le sujet, c'est qu'est-ce que Jordan Bardella va dire. Et là, surprise, après avoir été d'accord avec Zora, je vais être aussi d'accord avec Charles. Jordan Bardella, il a un agenda qui est exactement celui d'une droite assez libérale, assez classique. Et pour moi, c'est pas une différence de fond avec Marine Le Pen. C'est juste qu'ils font des sondages, puisqu'aujourd'hui, les sondages, pour le coup, gouvernent vraiment le pays. Ils font des sondages, ils regardent ce que les gens veulent. Et en ce moment, la tendance est à une forme de libéralisme qui est de dire on dépense trop d'argent, on travaille pas assez. Donc, il suit la tendance. Mais si demain, il y a un sondage qui montre l'inverse, il suivra l'inverse. Et moi, ce que je reproche avant tout à Jordan Bardella, c'est de n'avoir aucune conviction. Et sans aucune conviction, penser qu'il va pouvoir séduire les Français.
Alors,
c'est insupportable.
Benoît est avec nous au 32-16. Bonjour Benoît.
Oui, bonjour, comment ça va?
Oui, très bien, et vous nous appelez de la Manche, Saint-Laurent de Tergat, précisément.
Oh, quel joli nom de ville.
Jordan Bardella, qui déjeune avec les patrons, vous en pensez quoi?
Bon, de toute façon, après, Bardella, il est trop à gauche économiquement pour être crédible avec les patrons.
Pourquoi?
Bah, faut voir le dernier programme du RN. Après, je parle pas de Bardella, je parle du parti.
Oui, oui, du
mais
programme.
Quand on voit le programme, la retraite à 62 ans, voire 60 ans, c'est vraiment un programme.
Bravo, Benoît.
De gauche. Ça fait 15 ans qu'on est gouverné par la gauche économique. On est dans la merde et on s'étonne de dire, ah, bah, tiens, on va reprendre un mec qui est économiquement à gauche pour nous sortir de là.
Oui, mais alors vous voyez, je ne sais pas si vous avez lu la lettre, parce qu'elle a été, c'est une info BFM TV qui date de ce matin, mais dans la lettre qu'il va envoyer au patron, il dit au contraire, alors là plutôt c'est plutôt un discours de la droite libérale, il faut libérer l'économie, il faut moins de normes, il faut tout simplifier, il faut enlever toutes les entraves coûteuses à l'économie française.
Est-ce que Marine Le Pen a lu cette lettre?
Non mais est-ce qu'il n'est pas en train de faire un virage? Si vous dites s'il est de gauche, est-ce qu'il n'est pas en train de faire un virage?
Mais ça aussi,
c'est de la flûte. C'est de la flûte. Macron, il a été vendu comment en 2017? En grand libéral. Oui. Et le mec, fait quoi? Il a fait des chèques pendant 10 ans. Il nous a mis plus de 1000 milliards de dettes.
Et il continue. Hein.
Donc c'est un numéro de flûte pour vous.
Ouais. Après, on n'a pas de parti libéral en France. C'est le problème.
Est-ce qu'on gagne quand on est libéral en France? C'est la vraie question, surtout.
Je pense que les gens sont prêts,
là.
Vous regardez n'importe quel... À chaque fois qu'il y a... Vous faites des
non, on a quelques candidats libéraux, mais qui pour l'instant n'ont pas
non, c'est du libéral chamallow.
N'ont pas la surface nécessaire pour porter ces idées-là. Mais je pense qu'elles sont dans le pays.
Édouard Philippe, il est libéral, il va
pas. Non, il est pas libéral.
Oh
non,
il est pas libéral.
Le seul que je vois, c'est David Lisnard.
Il sera dans les grandes gueules demain, David Lisnard d'ailleurs.
Il est pas assez libéral.
Mais alors c'est quoi plus libéral?
Il est aussi
moi. Attends, Benoît, moi je suis suffisamment libéral pour vous.
Non.
Ah, moi
non
plus.
Ah bon?
Alors attendez, où est-ce que je suis pas assez libéral? Allez-y.
Par rapport aux retraites.
Qu'est-ce qui vous manque? Hein?
Par rapport aux retraites?
Aux retraites. Faut regarder la pyramide de Ponzi des retraites, c'est infinançable, il n'y a plus assez de naissances. Donc faut sortir de là. D'ailleurs, on ne peut pas attaquer l'État parce que je crois que la pyramide de Ponzi est interdite en France.
C'est-à-dire, donc, vous voudriez quoi? Exclusivement une retraite par capitalisation?
Non, déjà, faut faire une transition, mais faut la lancer, la transition, pour finir, justement, au 100% capitalisation.
100%? Ah oui. C'est très libéral.
On a plus de choix, il n'y a plus de gamins.
Oui.
On peut essayer de relancer un peu la natalité, quand même.
On peut faire
tout. Tout le monde n'a pas les moyens de capitaliser.
De toute façon, c'est le principe d'une pyramide de Ponzi. Les derniers arrivés, quand elles se cassent la gueule, ils se font avoir.
Oui, donc Benoît, vous serez toujours déçu des candidats parce que vous voulez vraiment quelque chose de beaucoup plus libéral qui n'existe pas effectivement dans l'offre politique française. Vous avez raison. Benoît, vous devriez vous présenter. Il y a un créneau à prendre. Merci Benoît. Merci d'avoir appelé au 32-16. Antoine est avec nous. Bonjour Antoine.
Bonjour à tous et à toutes les grandes gueules.
Vous nous appelez de Toulon dans le Var. Alors,
exactement.
Jordan Bardella veut séduire les chefs d'entreprise. Est-ce qu'il a raison?
Je pense que ça fait partie de son rôle, hein, de faire son job, hein, d'aller séduire à droite à gauche, serrer des paluches, faire des grands sourires. Vous inquiétez pas, je serai très gentil avec vous. De se mettre tout le monde dans la poche, c'est de ratisser large. Mais le seul petit souci, c'est toujours le même. C'est que quand vous vous retrouvez devant un parterre de chef d'entreprise et que vous êtes là, on va dire, à vouloir être crédible, je crois que ce qui est le plus important, c'est d'être chef d'entreprise soi-même. Donc moi, je sais pas, moi, je mets à la place de chefs d'entreprise qui viennent écouter les politiques, le problème, c'est toujours le même. C'est qu'ils n'ont jamais été chefs d'entreprise. C'est-à-dire qu'ils sont toujours, on va dire, dans la séduction, presque dans le rôle d'un comédien qui, en fait, fait les beaux yeux à tout le monde, va promettre plein de choses à plein de monde. Je suis sûr que M. Bardella, il va promettre tout au patron. Il va leur dire tout ce que vous voulez, mais votez pour moi. La seule
problématique... Mais Antoine,
oui,
l'unité de mesure de ces promesses qui oui, ont été faites, par exemple, par Macron et par d'autres, oui, avant, mais on va prendre, oui, le dernier président... Oui. C'est le réel qu'il raconte. C'est quand les gens vont moins bien, quand les gens ont le sentiment de travailler, de ne pas être, de mieux vivre, quand les gens n'arrivent plus à créer, quand les artisans ne peuvent plus recruter. En fait, on peut faire toutes les études qu'on veut, mais aujourd'hui, vous demandez aux gens, par exemple, le prix du carburant qui impute encore le pouvoir d'achat, et ben c'est la restauration en moins, c'est le vêtement en moins, c'est les loisirs en moins. Donc ils peuvent raconter tout ce qu'ils veulent. Le réel, lui, ment jamais.
Alors, le réel, je vais vous donner un exemple un peu plus réaliste. Vous vous engagez dans une filière où vous voulez être formé pour devenir boulanger. Est-ce que vous allez prendre pour crédit de la personne qui va vous former pour être boulanger alors qu'il n'est pas boulanger lui-même?
Ben oui.
Oui, mais alors dans ce cas-là, si je vous suis, Antoine, oui, il faudrait un prof mis éducation, un avocat ou un magistrat mis à la justice, oui, un policier ou mis à l'intérieur. On peut ne pas être chef d'entreprise, oui, mais
avoir
travaillé, être entouré de gens qui vous expliquent comment ça se passe,
voilà,
etc.
À condition de savoir s'entourer, oui, parce que si soi-même on n'est pas médecin et on est ministre de la Santé, mais qu'en plus de ça, on n'a que des cabinets d'apparatchiks qui sont là parce qu'on a recruté des potes, c'est encore pire.
Oui, enfin après, il y a un sujet. Emmanuel Macron, on ne peut pas dire qu'il n'a pas essayé de mettre des gens de la société civile. On a eu des médecins au ministère de la Santé, on a eu des profs et des directeurs d'école à l'éducation nationale.
Est-ce que ça a marché?
Entouré d'apparatchiks,
oui, mais
les ont bouffés.
Ouais, bon, d'accord. Mais donc, est-ce que, non, mais je suis désolée.
Il y a eu du bon et du moins bon.
Non, mais est-ce que ça a marché sur les grandes réformes dont avaient besoin ces ministères? Je ne suis pas sûre. La politique, c'est un métier, hein.
Alors, c'est un métier, la politique, mais le problème, c'est que...
C'est un engagement, d'abord.
C'est
d'abord un engagement.
Alors, disons que c'est surtout, au-delà d'un métier, c'est surtout d'apporter des solutions à des problèmes, et pas des promesses pour régler, oui, des problèmes.
Vous avez peur que Jordan Bardella arrive comme les autres candidats devant chef d'entreprise avec une pelletée de promesses?
Je suis pas sûr qu'un chef d'entreprise, aussi compétent soit-il, aussi gros soit son entreprise, soit capable de savoir faire une loi, c'est-à-dire savoir faire entrer en vigueur une loi, savoir faire appliquer une loi, savoir faire une bonne loi, c'est-à-dire une loi qui va marcher et qui va pas juste faire de l'inflation législative. C'est un autre métier.
Moi, je crois pas du tout à cette histoire selon laquelle la politique c'est un métier. Et d'ailleurs, historiquement, ça n'a jamais été un métier.
Mais c'est le sens de l'intérêt général, l'engagement. Plus fort que ça.
La politique, elle est la chose de tous. Tout le monde peut se présenter aux élections. Dans les grandes démos.
Tout le monde ne peut pas se présenter aux élections.
Qui peut pas se présenter?
Alors, en théorie, c'est vrai. Dans les faits, c'est pas vrai. Si tu te présentes à une élection, est-ce que tu aurais tes 500 signatures demain pour aller à la présidentielle?
Non, mais sur des législatives, sur des municipales, tu peux y aller.
Est-ce que sans parti politique derrière toi, t'as les reins assez solides?
Donc, financièrement,
personnellement, j'ai essayé une aventure citoyenne à un moment. On s'est rendu compte qu'on allait s'endetter de 500 000 euros. On a arrêté. Parce qu'on n'avait pas les capacités financières d'avoir 500 000 euros de crédit.
Honnêtement, tout le monde peut...
Pas tout le monde peut prendre 500 000 euros de crédit.
Mais non, pour aller aux législatives, il n'y a pas besoin de prendre 500 000 euros de crédit.
Oui, mais c'était pas soutenu par un parti.
J'étais tête de liste au municipal, ça m'a coûté 18 000 euros.
Bah 18 000 euros.
Ils ont été remboursés à
100%. Oui, 100%.
Parce que tu as fait plus de 5%.
En tout cas.
Oui, évidemment.
Si tu fais moins de 5%, tu appelles...
Avec cette logique-là... Avec cette logique-là... Vous allez donner raison aux vannes d'Olivier Truchot. Avec cette logique-là... on se retrouve avec un gamin de 30 ans qui n'a effectivement aucune expérience dans aucun domaine, à part la politique, et encore...
Le portrait de Jordan Bardella.
Oui, mais c'est ça que je dis. Non, mais bien sûr, je parlais de Jordan Premier.
Oui, mais est-ce que Gabriel Attal a plus d'expérience? Est-ce que l'âge...
Ils ont été biberonnés les appareils politiques.
Oui, on ne peut pas parler, moi je m'en vais.
Charles, c'est des apparatchiks.
Voilà. Oui, c'est-à-dire que avec cette logique qui dit la politique c'est un métier. Ce sont souvent les hommes politiques et les femmes politiques eux-mêmes et elles-mêmes qui veulent fermer la porte derrière eux. C'est ça la réalité, c'est eux qui disent ah non, vous ne pouvez pas, etc. Moi je me souviens par exemple quand le jeune Macron qui était dans le sérail politique certes mais qui n'avait jamais été élu auparavant, quand il a manifesté son souhait d'être candidat, la plupart des hommes et femmes politiques professionnels lui disaient « Mais enfin, tu n'y penses pas, tu n'as jamais été élu, comment veux-tu, etc. » En Argentine, quand Javier Milei s'est présenté pour renverser la table et remettre ce pays debout, il a eu contre lui tout le système argentin. Les journalistes, les hauts fonctionnaires, les élus, etc. Quand Trump s'est présenté à la primaire des Républicains aux États-Unis, tout le monde s'est foutu de sa gueule au début. Quand Zelensky s'est présenté après avoir incarné un président ukrainien dans une série là-bas, il s'est présenté pour être président de l'Ukraine ou premier ministre, je ne sais pas quel statut exactement là-bas, tout le monde s'est foutu de sa gueule aussi, et c'est quand même lui qui a gagné. Donc moi, je ne crois pas du tout à cette histoire de la politique, c'est un métier. Certains font leur métier, mais je pense que ça reste un champ assez ouvert et je considère que Bardella est encore trop vert.
Alors, la consultation devant les patrons aujourd'hui, Jordan Bardella est-il crédible? Il déjeune à midi avec les dirigeants du MEDEF et vous dites oui à 66,7% sur le compte X des Grandes Gueules. Dans un instant, Anaïs Sen te rejoint. On s'en fout pas.
RMC jusqu'à midi.
Les Grandes Gueules.
RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les Grandes Gueules.
Les Grandes Gueules sur RMC, RMC Story, la radio et la télé en direct jusqu'à midi. Anaïs Sens nous a rejoint.
RMC, Les Grandes Gueules.
On s'en fout. On s'en fout pas.
Bonjour Anaïs.
Bonjour Olivier, bonjour les GG, bonjour à tous. Bruno Retailleau sera le candidat des Républicains à la présidentielle. On s'en fout ou pas? Flora.
On s'en fout pas.
Zora.
On s'en fout pas.
Charles.
On s'en fout pas.
Sans trop de surprise, les adhérents LR ont donc largement choisi de désigner directement le président du parti comme candidat pour 2027. C'était hier lors du vote des militants. Ils avaient le choix entre deux formes de primaire plus ou moins ouvertes. Et c'est donc Bruno Retailleau qui l'emportait avec près de 74% des voix. Charles Consigny, pourquoi tu ne t'en fous pas?
Je pense que Bruno Retailleau à une ligne qui plaît fortement aux adhérents de LR. Et on sait que les adhérents des partis sont souvent les plus radicaux. Ils sont plus radicaux que les sympathisants. Et donc, sa ligne radicale plaît. Mais je suis très frappé de voir, et j'ai l'impression que c'est la première fois quand même que c'est comme ça, à ce point-là, à quel point les dirigeants maintenant des partis ou même les systèmes de désignation des partis n'aboutissent plus n'aboutissent pas à désigner des candidats non contestés. C'est-à-dire que à LR, le président du parti se fait reconfirmer par les militants et il y a néanmoins 10 autres candidats putatifs qui sont dans le même parti ou juste à côté, de Barnier à Lisnard, en passant par Wauquiez, Xavier Bertrand, tout le monde est sur la ligne de départ. Au centre, à Renaissance, le jeune Attal est président du parti, il va annoncer bientôt sa candidature. Vous en avez néanmoins 10 autres qui se mettent sur la ligne de départ et qui appartiennent au même parti. Bah oui, Brune Pivet, qui laisse entendre qu'elle peut être candidate. Jean Castex, qui depuis la SNCF, voilà, bon. Et Darmanin Lecornu, qui sont en embuscade, chacun avec un flingue sur le...
Barnier.
Tu remarqueras qu'au RN et chez la France Insoumise, il n'y a pas ce genre de...
Alors, au RN, c'est plus discipliné. Mais donc, je suis frappé de voir ça. Il y a des partis qui désignent leurs candidats.
Donc, un manque de leadership, en fait.
Ouais, c'est, voilà. Il y a une espèce de... Le leadership, c'est mousse.
Zora. Retailleau, est-ce qu'il a une chance? C'est ça la question. Bah, est-ce que Retailleau a sa chance pour 2027? C'est ça la vraie question.
C'est ceux qui ont une visibilité précise de ce qui va se passer en 2027 qu'ils se manifestent, parce que honnêtement, moi qui ai fait de la politique pendant très longtemps et qui suis quand même au chevet de ce pays et de son actualité, pour la première fois, honnêtement, je
sais pas. Tout est ouvert.
Je sais absolument pas ce qui va se passer. Ça dépendra du courage des Français, en fait. Tout va dépendre, est-ce que entre râler et faire, il va y avoir un pas qui va être franchi.
Pourquoi, c'est quoi le pas pour faire?
Parce que est-ce qu'ils vont décider d'avoir un président courageux, inconnu, qu'ils ont jamais vu? Est-ce qu'ils vont reproduire le même système?
S'il est inconnu, on le connaît pas encore.
On, 6 mois avant, il peut émerger quelqu'un, j'en sais rien.
Habitant.
Non.
Consigny.
Alors là, je vais te dire, c'est le dernier de mes
ambitions.
Mais, la candidature de Bruno Retailleau, elle raconte quoi? Elle raconte que la droite, comme la gauche, sont dans un désert total depuis des années.
Donc, tu dis,
ça
va être
la foire.
Pas de pronostic. Retailleau, il a ses chances.
C'est une bonne nouvelle qu'il n'y ait pas de primaire, parce que les primaires, ça aide pas le débat, et c'est bien que la présidentielle se lance. Moi, mon petit doigt me dit que c'est surtout une bonne nouvelle pour Édouard Philippe, qui va avoir Retailleau sur sa droite pour aller chercher à droite, Attal sur sa gauche pour aller chercher sur sa gauche, et ils feront tous deux des ministres dans son gouvernement.
À vous autres, hommes faibles et merveilleux, qui mettez tant de grâce à vous retirer du jeu.
Nathalie Baye, les GG, la voix que vous entendez, l'actrice aux 4 Césars, s'est donc éteinte samedi à l'âge de 77 ans. Évidemment, on ne s'en fout pas, mais est-ce que ça vous a touché ou pas, Charles?
Un peu quand même. Moi, j'aimais beaucoup Nathalie Baye, oui.
Zora.
Oui, bien sûr.
Laura.
Bien sûr.
Mais... Charles.
Non, je trouvais que c'était une très bonne actrice. Elle faisait partie de ces actrices qui changent beaucoup en fonction des rôles. Y a certains acteurs qui sont toujours les mêmes selon les rôles, qui jouent éternellement le même rôle. Elle, quand elle joue dans Absolument Fabuleux, par exemple, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce film très bouffon et très drôle.
Adaptation d'une série anglaise.
Adaptation de la série anglaise. Elle n'est pas du tout la même que quand elle joue dans Le Petit Lieutenant. Je ne sais pas si vous l'avez vu aussi, un film excellent.
Elle a eu le César d'ailleurs.
Sur la police judiciaire, etc. Où elle joue une commissaire de police. Elle changeait. C'était une vraie actrice et elle avait effectivement, je crois que c'est Libération qui a titré La Discrète. Elle était discrète, elle ne la ramenait pas. Donc elle avait beaucoup de chic.
Zora?
Oui. En dehors de ces films, les films. Moi, j'ai vu dernièrement le film avec qui elle est avec sa fille, Laura Smet. J'ai hésité avant de regarder et je trouvais qu'elle formait un beau duo. C'était un très joli film. Pour moi, c'est toujours un monument qui s'en va, parce que c'est un peu l'histoire entre guillemets des boomers, parce que c'est ce que disent les jeunes. Ouais. Que nous, on a une histoire avec le cinéma, on a une histoire avec la variété française, et c'est vrai que de voir des grands acteurs qui ont bercé à la fois notre adolescence, mais bien plus loin. Moi, ça me fait toujours un pincement au cœur quand même. Je me dis que il y a des belles histoires qui s'en vont.
Laura.
Bon, rien à ajouter à ce qui a été dit, si ce n'est que effectivement, quand des monuments pareils nous quittent, c'est une page de l'histoire qui se tourne. Donc ça nous touche tous.
Moi, j'aimais beaucoup sa voix. Je trouve qu'elle a une très très belle voix, Nathalie Baye.
Marie-Josée Pérec, vous savez, la triple championne olympique d'athlétisme, les GG, ne fait plus de vélo à Paris. C'est ce qu'elle a confié au journal Le Parisien. Elle a peur, en fait. Elle trouve génial qu'on puisse circuler sur toutes ces pistes cyclables, mais elle trouve qu'il y a trop d'accidents. Je n'ose plus faire du vélo à Paris, dit-elle. Est-ce qu'on s'en fout ou pas, Flora?
Moi, je m'en fous, ouais.
Zora?
Bon, je peux dire que je m'en fous pas pour raconter ce qu'est le vélo à Paris. Parce qu'elle n'a pas tort.
Charles?
On s'en fout pas.
En fait, elle n'avait pas peur des pistes d'athlétisme, elle a peur des pistes cyclables.
Ah. Oui, c'est ça. Zora?
Oui, moi je fais du vélo, souvent. À Paris, je n'y vais pas. D'abord, déjà en plus, en piéton à Paris, entre les voitures, les scooters, les vélos, maintenant il faut regarder vraiment, se concentrer sur l'arrivée des...
C'est un peu l'anarchie.
Voilà, c'est l'anarchie.
C'est peut-être c'est quand même le piéton qui est le plus en danger.
Oui. Non, mais moi, j'ai failli avoir un accident en piéton avec des vélos, parce que les vélos, ils tracent. Les vélos, ils sont, ils, par principe, ils sont sur une piste cyclable, donc sur un endroit qui leur est réservé, et donc ils oublient le reste, donc je la comprends.
D'accord.
Charles?
10 secondes.
Non, c'est, je comprends pas parce que, il faut voir ce que c'est qu'un vélo à Paris. C'est à peu près la psychologie d'un soldat de l'armée allemande en 40, un vélo à Paris. C'est-à-dire que l'autoritarisme avec lequel ils avancent, je vois pas ce qu'elle risque. C'est comme si elle était dans un régiment, de la Wehrmacht.
Voilà, bon, ça, on est
c'est
vraiment dans la nuance.
Évidemment.
C'est de l'humour. Allez, dans un instant, on parlait de la campagne présidentielle. Vous savez quel âge a le président idéal pour les Français?
47 ans.
Il est honnête,
ça
courageux.
Tombe bien, 46
et plutôt
ans.
De centre droit. Est-ce que c'est votre président idéal?
Et c'est une
idéal
femme
à
ou de centre gauche, c'est pas vrai.
RMC, 9h midi. Les Grandes Gueules.